Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. L'humour et la musique sont dans vos gènes, et où il y a des gènes, il peut y avoir du plaisir. Le plaisir d'écrire une autre page de l'histoire familiale, un nouveau volume, un second tome, si j'ose dire. Bonjour Tom Leb.
Bonjour.
C'est vrai que vous êtes le fils de Michel Leb, on vous l'a dit 10 fois, mais il faut le rappeler pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant.
Pour moi aussi, il faut me le rappeler.
Oui, alors je crois que vous avez quelques souvenirs de ce côté-là. On va évoquer aujourd'hui votre nouvel album, Recollection, un album en anglais, dont on écoutera quelques extraits, mais le principe de l'émission des Clés d'une Vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Oh. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 2 mars 2013. Ça vous dit rien? Écoutez ceci.
Je vois le ciel aussi bleu que dans nos rêves, quand nos cœurs parlent.
Sous le soleil de Saint-Tropez, le générique. Premier épisode ce jour-là diffusé sur TMC.
Oui, c'est ça, absolument. J'ai cru pendant un instant que c'était la voix d'une amie à moi, donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Et voilà, ça m'est revenu.
Et c'est un feuilleton qui était dérivé de Sous le soleil,
ouais.
Et dans lequel vous vous êtes retrouvé casté et engagé, Tom Leb.
Oui, absolument. Je venais de revenir des États-Unis, et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai un peu puisé toutes mes influences, et je voulais un peu à l'époque devenir acteur, et encore aujourd'hui d'ailleurs, sans vous mentir. Et puis, c'est le premier job que j'ai eu en tant que comédien. Absolument, ouais.
Et c'est une série qui avait peu de budget, à tel point qu'on engrangeait des revenus supplémentaires en mettant des marques dans le feuilleton, ce qui permettait de gagner un peu plus de sous pour le producteur.
Absolument, ouais.
Alors, c'était aussi une école de la comédie, car on tournait 20 minutes en une journée, Tom Leb.
Absolument, ça c'est des choses que j'ai souvent dites, c'est vrai. C'est là où j'ai appris le plus ce métier, plus qu'à l'école d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de choses à retenir, à faire en même temps, on tourne à plusieurs caméras, à se rappeler du trajet à faire, ne pas bloquer l'autre parce qu'il y a justement il y a plusieurs caméras, connaître son texte, répéter plusieurs fois la même chose parce que c'est des scènes assez similaires les unes aux autres. Donc ouais, ça m'a beaucoup appris. Ouais.
Oui, et à l'époque vous tournez à Saint-Tropez, alors on parle du mythe de Bardot à Saint-Tropez, mais on oublie que le mythe de Saint-Tropez, c'est Colette qui l'a lancé en 1935 avec la Treille Muscade, il ne faut pas l'oublier.
C'est intéressant, oui, c'est important de le dire.
Alors, il y a votre premier métier, votre première vocation, Tom Leb, c'était le tennis.
Oui, absolument. Oui, et d'ailleurs, je suis accro à la Laver Cup qui vient de se terminer ce week-end, et on peut en parler si vous voulez, je suis fou de tennis, donc si vous voulez dévier sur le tennis, alors là, vous
n'allez
pas
vous faire. On va juste parler de Federer, qui est votre idole.
Absolument, bien dit.
C'est qu'une fois, il a été battu 6-0, 6-0, dans un tournoi junior par un certain Reto Schmidt, qui est devenu agent de police ensuite. C'est étonnant, et c'est la seule fois où il était battu.
C'est l'info la plus absurde de la journée, je pense.
Mais elle est vraie. Hein.
Mais c'est bien de le dire. Voilà. 6-0, 6-0 contre un flic.
Alors, vous n'avez pas joué au tennis, et vous êtes devenu enfant de la balle, si j'ose dire,
en
jouant Madame Doubtfire à Marseille.
C'est là que j'ai commencé, oui.
Comment c'est né, ça?
Mais, le rôle était de celui d'un petit garçon, pour jouer le fils d'un père. Bon. On est quand même, c'était mon père,
Michel Leb,
j'avais l'âge du rôle, il suffisait de jouer le fils de mon père, je m'y suis retrouvé, on va dire. Et le casting s'est plutôt bien passé et j'ai eu le rôle.
Voilà, et en plus, Michel Leb vous a encouragé, en vous donnant des conseils, il faut vraiment faire attention à sa carrière, il faut travailler beaucoup.
Ah bah bien sûr, oui. Bon, ça, je pense que c'est valable dans toutes les carrières du monde. Hein,
oui,
dans tous les
mais
métiers.
Il y a des moments difficiles. Lui en a vécu. Ah bah moi, oui. Je me souviens de lui à ses débuts, se disant je fais mon sketch sur la machine à écrire imitant Jerry Lewis et personne ne m'écoute.
Ah oui, absolument. Et j'ai fait aussi des choses où personne ne m'écoutait. Ah oui. Et je pense que tous les artistes du monde vont faire des choses où personne ne les écoute.
Alors, votre vocation, elle est née et votre apprentissage est à New York. Pourquoi New York, Tom Leb?
En fait, j'avais besoin, à 18 ans, quand j'ai eu mon bac, j'avais besoin, c'est un petit peu particulier de dire ça, mais j'avais besoin de voir que je pouvais exister seul, c'est-à-dire sans un nom de famille. Je ne renie absolument pas le nom de mon père, c'était d'ailleurs mon idole, et je suis son premier fan, mais j'avais besoin de voir ce que c'était de dire Tom Leb sans qu'on se retourne vers moi en disant « Ah, Leb comme Michel ». Donc j'avais besoin de trouver, et de me trouver, et de voir un petit peu si je pouvais exister tout seul, en fait, à travers une école d'acteur.
Donc, école d'acteur pendant 5 ans, et même un court-métrage que vous avez réalisé, écrit dans lequel vous avez joué, qui s'appelle « Subtitles ».
Oui.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Ça, c'était une compétition qui s'appelait 100 heures pour faire un film. Il y avait donc à peu près 3 jours pour faire un film. Et le film a été sélectionné parmi, je ne sais pas, 8000 films dans le monde entier en finale. Et on a fini dans les 20 films. C'est un film que j'ai écrit, réalisé et joué en 3 jours, en 100 heures.
Voilà. Et vous auriez pu peut-être rester aux États-Unis parce que vous avez eu un parcours fabuleux en France qui commence à peine. Mais finalement, les États-Unis, vous ouvrez la porte, Tom Leb.
Oui, Alors oui, c'est vrai, mais je suis rentré... Alors déjà, j'ai eu ce casting pour Sous le Soleil, oui. À la fin de l'été, je l'ai obtenu, et j'avais envie de travailler, j'avais envie de m'y mettre. Ça faisait déjà longtemps que j'étais aux États-Unis, que j'apprenais. Alors, là-bas, c'est un peu le pays de l'apprentissage, tous les jours, on apprend quelque chose. Et c'est le pays aussi où tout est possible. Donc en effet, on a envie d'y rester. Mais moi, j'avais envie de travailler aussi. Donc quand j'ai eu cette opportunité en France, je l'ai prise. Et puis, depuis, j'ai enchaîné... des choses, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai écrit un spectacle, j'ai eu d'autres tournages, je me suis mis à écrire de la musique, j'ai fait un album, et puis aujourd'hui je suis en interview avec vous, donc je ne vais peut-être pas rentrer maintenant.
Voilà, maintenant vous restez avec nous, d'ailleurs dans quelques instants on va se retrouver avec une autre date, le 1er mai 2014. A tout de suite sur Sud Radio avec Tom Leb.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Tom Leb, avec ce nouvel album Recollection dont on va parler tout à l'heure, et des dates précises. Et 1er mai 2014, vous n'avez absolument pas oublié.
Ah non, impossible. Impossible d'oublier. Le duo Kevin et Tom faisait sa première date à l'Olympia, en première partie de Gad Elmaleh. Gad Elmaleh qui nous avait trouvé sur un concours Facebook. Il avait lancé un concours Facebook en disant « Inscrivez-vous, je vais regarder vos sketchs, que vous soyez connus ou pas connus, n'importe où d'où vous venez, je vous fais venir à l'Olympia. » Et on avait gagné ce concours, donc on avait une date, le 1er mai 2014, en première partie de Gad Elmaleh, sachant que ça faisait 3 mois qu'on jouait.
Oui, et alors ?
On avait 5 dates dans les pattes. Bah, ça s'est formidablement bien passé. C'est un de nos plus beaux souvenirs, je pense.
Alors, ce duo, il est né par une histoire d'amitié.
Ouais.
Kevin et Tom, c'est né parce que je crois qu'une de vos sœurs connaissait la petite amie de Kevin.
C'est ça, ouais. Ouais. Moi, je venais de rentrer des États-Unis et ma sœur Fanny, qui est chanteuse aussi, me conseillait de rencontrer le petit ami de son ami, Kevin.
Et ça a été immédiat, le coup de foudre.
Tout de suite. Coup de foudre artistique, ouais. Une sorte de... directement dans le regard, de l'humour, on riait aux mêmes vannes, on se faisait rire l'un l'autre. En 15 minutes, c'est devenu... je suis tombé fou amoureux de ce mec. Attention, hein.
Professionnellement, on est bien d'accord.
S'il vous plaît.
Mais vous inquiétez pas.
Artistiquement.
Ici, on ne parle pas de vie privée.
S'il vous plaît.
Je vous rassure.
Précisons.
Kevin, il faut savoir qu'il a commencé dans la comédie musicale.
Ouais.
Il a notamment joué une comédie musicale opérette culte, Le Chanteur de Mexico.
Ouais, plusieurs même.
Oui, mais celle-là, elle a quand même été la plus grande. Il y a eu 1000 représentations au Châtelet, plein tous les soirs, ce qu'on ne peut pas imaginer. Il y a un spectateur qui l'a vu 157 fois.
Ok.
En 1951, vous voyez, c'est...
Alors Kevin n'y était pas en 1951.
Non, je confirme.
Ouais.
Alors, votre style d'humour, finalement, c'est un peu inspiré de votre père, ce qui est normal, mais en même temps, vous avez trouvé petit à petit votre personnalité avec un côté absurde de Tom Leb.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'humoristes aujourd'hui qui parlent du quotidien, de la vie de tous les jours, qui font allusion à la société... à l'actualité, tout ça, qu'évidemment, on a choisi de parler de quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, on a inventé des personnages, on a inventé une situation, et puis c'était un humour très, très accessible, très populaire, si je puis, dans le bon sens du terme, attention.
Et puis vous êtes arrivé à un moment, Tom Leb, où les duos se faisaient rares.
Absolument, oui. Il y en a quelques-uns, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a quelques-uns qui fonctionnent très bien, mais c'est vrai qu'il y avait une pénurie de duos quand nous, on a commencé, et on ressentait dans la salle que le public avait soif de ça, avait soif de storytelling, en fait, et pas forcément de stand-up, mais d'interaction entre deux mecs, de jeux d'acteurs et de personnages, en fait.
Et quand on voit vos sketchs, on s'aperçoit que vous êtes dans la tradition de Poiret et Serrault, qui se renvoyaient la balle comme ça dans l'absurde. Et je ne sais pas si vous savez comment ils se sont connus, Poiret et Serrault. Ils étaient à une audition au Théâtre Sarah Bernard.
Théâtre Sarah Bernard.
Et à un moment, Jean Poiret lance comme ça au milieu des figurants. J'ai une fortune personnelle, donc je vais être engagé. Et Serrault répond, oh, moi je vais être engagé parce que ma mère connaît la cousine du concierge.
Voilà.
Ils se sont parlé, et un quart d'heure plus tard, comme vous, c'était fait. Voilà. Alors le principe, c'est aussi le clown blanc et l'Auguste pour vous.
Absolument.
Ça, c'est un principe que vous avez adopté.
Principe assez traditionnel du duo, qui est d'ailleurs une des seules façons pour que ça fonctionne vraiment. Parce que sinon, y a ces deux personnes qui essaient de marquer le but, en fait. Et ça crée un déséquilibre. Alors que le clown blanc et le clown Auguste, en fait, il y a quelque chose qui fonctionne et un point de repère pour les gens, en fait. Et c'est très jouissif à faire, en plus.
Voilà, et puis vous êtes bien amusé. Il y a eu le parcours du combattant. Ouais. Vous avez commencé au Festival d'Avignon, dans l'indifférence générale, Tom Leb.
Absolument, oui. Très difficile, ça. On l'a fait 4 ans.
Oui.
Et c'est vrai que le premier Festival d'Avignon, j'en garde un souvenir très particulier, parce que quand on arrive au Festival d'Avignon, on arrive dans une mer de comédiens. et d'acteurs et de saltimbanques.
1500.
Voilà, 1500 spectacles, donc ça vous laisse certainement deux par spectacle parfois, donc 3000 comédiens.
Ouais.
Parfois ça m'arrivait de tracter des comédiens, qui me tractaient en retour. C'est-à-dire qu'il faut accepter le fait que c'est celui qui crie le plus fort qui aura du monde dans sa salle. C'est celui qui fait le plus de gestes, qui attire le plus le regard vers lui, qui aura du monde dans sa salle. Ce qui est d'ailleurs une vérité pour le reste aussi. Hein. Je vais peut-être parler plus fort à cette interview d'ailleurs.
Non, mais il y a aussi le bouche à oreille, car
ouais.
Le bouche à oreille vous a beaucoup aidé.
Absolument. Ouais. C'est un succès. Enfin, un soir à succès, une salle pleine peut amener 2, 3, 4, 5, 6 soirs et tout. Et puis faire le festival complet en fait.
Voilà, et après il y a eu Paris, il y a eu le théâtre d'Edgar, des théâtres de plus en plus importants.
Mm-hmm. Edgar, Apollo.
Et l'Olympia.
Et, alors, en première partie.
Oui, mais c'est quand même pas mal.
Ouais. Et on l'a fait aussi avec les Chevaliers du Fiel.
Oui.
10 dates.
Et puis, autre chose, on peut vous voir sur YouTube, car vous avez lancé une chaîne YouTube avec des séquences de vidéos de 3 minutes qui sont aussi des séquences adaptées de sujets qu'on connaît bien.
Oui.
Comment c'est venu ça,
alors, ça, oui. On a essayé justement de mettre notre humour, c'est-à-dire garder ce côté absurde, mais avec l'actualité et les sujets que tout le monde traite tous les jours du quotidien, pour essayer d'attirer de la communauté vers nous, en fait. C'est ça qu'on a fait.
Et ça marche. Alors, les situations... Ouais. Moi, j'ai vu un court-métrage où il y a un entretien d'embauche totalement délirant.
Voilà, par exemple. Il y a l'entretien d'embauche, il y a passé son permis de conduire, il y a... j'en passe, il y a comment... voilà, c'est évidemment quand on en parle que j'ai pas d'idée, sachant qu'on en a fait 70 des vidéos. Je ne sais plus.
Comment louer un appartement.
Comment louer un appartement.
Alors là aussi, c'est le principe de l'absurde. Vous êtes vous aussi passionné par l'absurde, Tom Leb ?
C'est ce qui me fait rire en tout cas. C'est parce que tout ce qui est impossible et tout ce qui est fantaisiste me fait rire. Créer l'humour sur quelque chose de vrai, c'est fort aussi. Comme le fait Gad Elmaleh, sur la société, sur l'actualité, c'est très fort. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Moi, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de voir quelque chose qui n'est pas possible et de délirer autour de ça. Enfin, pas forcément qui n'est pas possible, mais qui n'existe pas forcément.
Oui, mais c'est le principe de DeVos, de Poiré et Serrault, et de tous ceux qui ont fait de l'humour absurde. Voilà. Et Jean-Michel Ribes a dit « L'humour, ça vieillit, l'absurde ne vieillit jamais ».
Oui, mais je me pose la question, est-ce que tous les humours ne sont pas absurdes ? Toute forme d'humour est absurde. En fait.
Il y a certains humours pas drôles qui sont effectivement absurdes, c'est autre chose. Alors, il y a quand même aux États-Unis quelqu'un qui vous a marqué, quelqu'un dont on va entendre la voix, Tom Leb.
Simon, s'il est vieux, il devrait être en retraite depuis belle lurette.
Ça, c'est la version française, mais il y a la version américaine.
Sûr, Jim
c'est Jim Carrey. Jim Carrey qui vous a marqué avec un film qui s'appelle Menteur, menteur. On ne sait pas trop en France qui est Jim Carrey, Tom Leb.
Oh, si, quand même. Je pense.
Pas beaucoup. Expliquez-nous.
Pourquoi Menteur, menteur ou pourquoi Jim Carrey ?
Les deux.
Bon, ils remarquent, c'est la même question. Ben voilà, parce que Jim Carrey est quelqu'un de fou et qui fait quelque chose de très singulier. Quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire il reste crédible, il reste sincère dans ce qu'il fait, mais il y a une folie qui est cartoonesque. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me fait rire. Il y a quelque chose de déjanté, d'électrique.
Et quand vous avez vu le film Menteur, menteur aux États-Unis, ça a provoqué chez vous un déclic, Tom Leb.
Oui, je dis voilà quelque chose d'original. Voilà quelque chose qui n'a pas de contrôle, qui n'est pas qui n'est pas politiquement correct et qui en plus est très drôle et joué très sincèrement avec beaucoup de sincérité. C'est pour ça qu'on y croit. D'ailleurs, c'est assez similaire à ce que faisait De Funès. C'était aussi complètement fou. C'était démesuré parfois, mais c'était tellement sincère que c'était drôle. C'est pour ça qu'il a marqué l'histoire de la comédie.
Oui, avec un travail phénoménal. Je me souviens avoir vu De Funès en train de répéter l'ouverture et la fermeture d'une porte pour que ce soit parfait. Ça durait des heures.
À ses débuts ?
Au milieu, non.
Ah, au milieu ?
Au milieu.
D'accord.
C'était fascinant.
Mais on a toujours cru à ce que faisait De Funès.
Oui.
C'est vrai, on y croit. Bah, pour moi, Jim Carrey, c'est pareil.
Et Menteur, menteur, qu'est-ce que c'était ? C'est une sorte d'avocat, je crois, qui ment sans arrêt.
Voilà, et un jour, son fils fait le souhait à son anniversaire que son père ne mente plus. Et là, pareil, on est dans quelque chose d'impossible, le souhait se réalise. Donc le père est incapable de mentir. Donc ça crée des situations complètement folles où le mec fait tout pour mentir, il ne peut pas. Donc ça le rend fou. Et puis voilà, dès que c'est fou, moi, ça me plaît.
Et aujourd'hui, il fait des spectacles pour enfants et des feuilletons pour enfants, Jim Carrey.
Et ben, vous me l'apprenez.
Voilà. Alors, vous n'êtes pas un menteur, parce que votre père vous a dit de ne jamais tricher dans ce métier, Tom Leb. C'est vrai que c'est une règle absolue des humoristes.
Mais surtout que ce n'est pas possible.
Oh, il y en a qui le font.
Alors, quand vous dites... Attendez, quand vous dites tricher, c'est-à-dire copier les textes des autres
Pas seulement, mais copier... Enfin, tricher, c'est-à-dire ne pas se donner spontanément et naturellement.
Mais ce n'est pas possible, ça. Le public n'achète pas, il mord pas.
Oui.
Si, si, dans le monde de l'humour, l'instant, c'est-à-dire le public est le seul à avoir raison. Donc on ne peut pas tricher. Y a pas de, c'est lui qui décide si c'est drôle ou pas.
Alors il y a aussi le cinéma. Vous avez tourné avec Jean Reno et vous avez réalisé un court-métrage, This New Generation,
oui.
Qui est aussi culte pour certains.
Je suis très heureux de vous faire parler anglais avec tous mes titres.
Oui, je parle très...
Subtitles, This New Generation, Recollection.
Il y en aura d'autres tout à l'heure, mais j'ai déjà assez de mal à parler français, alors l'anglais c'est compliqué. Oui, donc c'était un court-métrage sélectionné au Short Film Festival à Cannes.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que c'est ce court-métrage?
J'étais fou quand c'est arrivé. Bon, après... C'est pas si exceptionnel que ça, parce qu'il n'est pas si difficile de se faire sélectionner au Short Film Festival de Cannes. C'est-à-dire que ce n'est pas la liste de compétition. C'est-à-dire que c'est une liste avec des milliers de films, et c'est pour faire des rencontres. Donc c'est pas impossible de se faire sélectionner au Short Film Festival de Cannes. Mais quand même, j'avais ma petite accréditation avec mon nom, Festival de Cannes. Je m'y suis cru à un moment, je vous le dis. Mais c'est bien, c'est les premières choses. J'ai serré pas mal de mains, dont je ne me souviens absolument pas les noms, mais ouais, c'est à ça que ça a servi.
Et ce film parlait de la génération d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Qu'est-ce que c'était ?
C'est un film, d'ailleurs, je pourrais être franc avec vous, c'est un film raté.
Ah bon ?
Ouais.
Pourquoi ?
C'est un film raté, où le récit n'est pas très clair, où le texte et le dialogue est pauvre ici et là, mais c'est un premier film.
Voilà.
Et il a le mérite d'exister.
Ce qui n'est pas raté, en revanche, c'est cet album dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 20 septembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Tom Leb.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Tom Leb. On a parlé du comédien, on a parlé de l'humoriste et il y a le chanteur avec le 20 septembre, donc très récemment, la sortie de Recollection, votre premier album. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va écouter une chanson hacheuse. Come and go, never stay, because I should lock my heart instead. En anglais, bien sûr, votre formation, votre culture, Tom Leb.
Ma culture, oui. C'est juste, c'est le mot juste. Je suis né en France, j'ai des parents français, mais vous me parlez de Jim Carrey, je peux vous parler de Jerry Lewis, je peux vous parler des humoristes américains, de ceux qui ont un peu bercé mon enfance, par mon père, hein, parce que mon père jouait des albums américains à la maison, que ce soit Quincy Jones, Frank Sinatra...
Passionné de jazz.
Donc, on va dire que j'ai la culture anglo-saxonne, avec le cinéma et la musique.
Et la chanson, ça a commencé, je crois, un jour à New York, quand un copain vous a prêté une guitare.
Ouais, ça bien vu, ça. Ça, vous l'avez lu et c'est bien joué. J'ai un pote à moi qui a laissé une guitare chez moi, qui m'a dit « tu me la gardes pour le week-end » et je n'y ai pas touché de week-end. Et c'est seulement le dernier soir, 2 heures avant qu'il la récupère, que j'ai ouvert la caisse et que j'ai trouvé l'instrument. Et je me suis fait voir un peu et j'ai commencé à faire n'importe quoi. C'était évidemment... inaudible et absolument terrible, mais je lui ai demandé de me la laisser quelques jours de plus, il a accepté, et me voilà aujourd'hui en parler.
Alors justement, pourquoi la chanson, à partir de cette guitare, comment est née l'envie de chanter Tom Leb ?
En fait, je l'avais déjà un peu, parce que mon père, comme je vous ai dit, m'a influencé beaucoup, et ma sœur aussi m'a influencé beaucoup, et j'ai baigné dans une maison où il y avait de la musique constamment, donc j'avais peut-être ça à l'intérieur. Et c'est sorti quand j'ai découvert la guitare, je me suis dit, tiens, si je faisais les deux en même temps.
Oui, et les chansons en anglais, c'était naturel plutôt qu'en français ?
Eh bien, c'est surtout que j'habitais à New York à ce moment-là, et j'avais à peine 18 ans, et je suis resté bien des années après pour concrétiser cette idée-là en faisant vraiment quelque chose de concret, quoi.
Eh bien, dans mon anglais personnel, je vais annoncer une seconde chanson de cet album, Tom Leb, Are We Too Late ?
Ah, c'est pas simple.
Alors, cet album, Recollection, c'est aussi un titre voulu parce que c'est, y a de la nostalgie par rapport à la pop et toute une musique qui a été votre berceau.
Oui. Alors, Recollection, pourquoi ? C'est thérapeutique pour moi, cet album.
Comment ?
Oui, tout simplement. Parce que la folk, je vais vous dire la vérité, parlons-en.
Parlons vrai sur ce truc.
Soyons, s'il vous plaît, soyons sincères. Cet album, c'est une séance de thérapie. Suite à une histoire d'amour, un échec amoureux, un chagrin d'amour, avec une femme avec qui ça n'a pas fonctionné. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour aller mieux, bah, c'est d'écrire des chansons.
Et d'écrire des chansons, il faut ensuite les enregistrer.
C'est ça.
Et donc, cet album est né, il y avait déjà eu quelques essais, et quand on voit cet album, il y a une pochette très bizarre, vous êtes dans l'eau, habillé, et ouais. On ne voit
alors,
que l'eau.
Serait, suite à ce que je viens de vous dire, quelle serait votre interprétation de la couverture de cet album?
Oh, bon, moi, j'en ai pas, la vie privée est à l'eau, c'est peut-être pour ça, non?
Ok, ça me va. Ouais. La vie privée est à l'eau, bien. Pourquoi pas? Gardons ça.
Carrément ça.
Oui, pourquoi est-ce que je me tiens au milieu du lac Léman d'ailleurs?
Oui.
Mais voilà, c'est.
Tout habillé en dessous?
Tout habillé, bien sûr, dans une eau à 5 degrés.
Et ben,
mes parties génitales s'en souviennent.
Alors, il y a d'autres chansons dans cet album. Il y a You and I, ça c'est facile à dire.
Ouais, You and I.
You and I can get like nobody.
Excusez-moi, mais on dirait un chanteur anglais, Tom Leb. C'est un compliment.
Oui, je le prends bien. Merci. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas si eux, les chanteurs anglais, doivent bien le prendre.
Oui, peut-être que si, parce que vous avez des influences. Vous l'évoquez d'ailleurs souvent. Vous avez trois maîtres qui sont des maîtres du folk. Il y a John Mayer,
ah oui,
qui a vendu plus de 20 millions de disques. C'est quelqu'un qui vous a marqué, Tom Leb?
20 millions?
Oui.
Je fais juste le calcul par rapport à moi.
Oui, oh, ben il y en a quelques dizaines encore, ils arrivent à 20 millions. Et qui est-ce, John Mayer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément
John Mayer? Alors, John Mayer est très peu connu en France, mais par contre, il tourne tout autour de la France. Il tourne en Angleterre, il tourne en Norvège, à Copenhague, partout. Mais il n'est pas connu en France, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un artiste qui est considéré, en plus d'être un excellent chanteur, comme un des meilleurs guitaristes du monde.
Et il y a aussi Matt Corby, chanteur australien, qui a fait carrière en Angleterre, aux États-Unis.
Ouais, Matt Corby.
Et puis il y a Ben Howard qui a une particularité, quand il joue de la guitare, elle est posée à plat sur ses genoux,
ouais.
Et il a une façon très particulière de jouer, racontez-moi ça.
Ouais, ouais. Il m'a influencé là-dessus aussi, d'ailleurs c'est bien qu'on en parle, puisque beaucoup de gens disent « Ah Tom, je vous ai vu jouer avec la guitare sur les genoux en tapant et tout », et je précise que je n'ai rien inventé, parce que Ben Howard n'est d'ailleurs lui-même pas le premier à l'avoir fait, mais c'est chez lui que j'ai tiré cette façon nouvelle de jouer de la guitare en mettant la guitare sur les genoux, ça s'appelle du tapping. En fait, c'est de la percussion et de la guitare en même temps.
Et pour que, l'avantage, c'est qu'on peut faire plusieurs instruments en même temps.
Voilà, ça coûte moins cher pour les producteurs.
C'est très bon pour les producteurs. Et puis, il y a quelqu'un qui a exercé aussi une certaine influence sur vous, c'est Frank Sinatra, naturellement.
Oui, naturellement.
Pourquoi?
Bah, parce que
papa?
Oui, papa. Et puis parce que aussi, je pense qu'il est inévitable, quand on aime la musique, d'être fasciné par ce mec. Et puis d'être touché par ce qu'il fait. Et ce qu'il a fait, ce qu'il est devenu. Et une icône. Du crooning, je ne sais pas si c'est un mot, mais des crooners, on va dire.
Oui, et en plus, le jazz n'était pas la seule musique de sa vie. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il avait une discothèque classique très complète, avec Vivaldi, Beethoven, Bach et tous ceux qu'on peut imaginer.
Ouais.
Vous aimez toutes les formes de musique, vous, Tom Leb?
Alors, je suis très touché, effectivement, par la musique classique, puisque c'est proche de la musique de film, et moi, la musique de film est essentielle dans ma vie. Mais il y a des genres musicaux auxquels je suis moins sensible, comme le rap. Ouais, par contre, je sais reconnaître les beaux textes, et je sais apprécier des beaux textes, et je sais reconnaître qu'un artiste comme Orelsan ou comme même Nekfeu font des choses formidables, mais je ne suis pas...
C'est pas votre truc.
Voilà, comme d'ailleurs, ça se trouve, Orelsan serait assis là, je sors ma guitare... Je commence à jouer, il fait cool, mais moi, ça me fait strictement rien.
Voilà. En revanche, il aimerait peut-être cette chanson « I'll Remember You » en version live.
Till the sun breaks, whatever happens, I'll remember you. Yeah, I'll remember you. Until I die.
C'est effectivement très doux à l'ancienne. Et là aussi, vous avez eu le parcours du combattant, Tom Leb, en commençant par des petites salles, tranquillement, avant de vous retrouver à Pleyel.
Là encore, en première partie.
En première partie de Tom Jones.
Oui, c'est important de le préciser. J'en ai fait des petites salles, et à mon avis, je vais en faire encore beaucoup. Mais c'est pas très grave, en fait, quand on est artiste présente sa musique ou quand on fait un show, de jouer dans des petites salles. Je sais que beaucoup de gens se disent « Oh là là, il a dû faire une tonne de petites salles ». C'est pas très grave, parce que les petites salles, ça reste... On fait quand même notre métier.
C'est intime, oui.
Et puis en tant que musicien folk, comme ça, avec une guitare, c'est pas... pas très grave de jouer devant 20 personnes.
Hein, non, et Tom Jones, comment vous êtes retrouvé en première partie de Tom Jones, qui est quand même un personnage extraordinaire.
Grâce à mes tourneurs Live Nation, que je salue.
Et Tom Jones, il a enregistré une chanson qui, pour toutes les générations, reste un modèle, c'est What's New Pussycat. What's new, Pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new, Pussycat? Et à 78 ans, il chante toujours avec la même voix.
Ah oui, mais je peux vous le confirmer.
Vous avez parlé un peu avec lui?
Absolument pas.
Jamais?
Non.
Il reste dans son coin, il chante, mais il parle pas.
Ouais, il avait demandé à ce que de sa loge à la scène, il n'y ait personne pour rester concentré. Ce que je peux comprendre, parce que à tout moment, le mec de la première partie peut dire « Oh Tom, est-ce que je peux discuter avec vous ?» Et ça le sort de son truc, donc il préférait rentrer directement sur scène, ce que je peux tout à fait comprendre.
Et je ne sais pas si vous le savez, mais What's New Pussycat, c'est un film ouais, dont le scénariste était un inconnu, un humoriste que le premier producteur a engagé, Warren Beatty. Cet humoriste, c'était Woody Allen.
Ah.
Qui a écrit ce film, ce qu'on ne sait pas beaucoup.
Voilà une bonne influence à tout niveau, que ce soit, parce qu'il a écrit des chansons aussi, oui. Woody Allen, que ce soit metteur en scène, auteur, il écrit des livres très drôles. Je pense Dieu, Shakespeare et moi, formidable.
Magnifique.
Ou Shakespeare, Dieu et moi. Moi, Dieu et Shakespeare. Plus l'ordre.
L'ordre est bon. Et vous avez aussi accompagné Sting. Vous allez accompagner Sting.
Je vais accompagner.
Racontez-moi ça.
Et bah pareil, mes tourneurs Live Nation m'ont offert cette opportunité de le suivre en tournée à Grenoble et à Nice au mois d'octobre. Et pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas encore vécu cette expérience. Mais déjà, je frie.
Et alors, je vais vous apprendre quelque chose. Vous avez tourné dans un film qui s'appelle Avid Mistral de Rosine Bosch.
Oui.
Et le premier film qu'elle a écrit, Christophe Colomb, elle voulait Sting comme interprète. Vous voyez, la boucle est bouclée.
Waouh! Ah oui, le film sur Christophe Colomb.
Bien sûr, elle voulait Sting comme interprète.
Okay.
Alors maintenant, il y a aussi cet album, il y a Paris. Le 17 décembre, vous serez à la Maroquinerie. C'est le point de départ d'une nouvelle tournée pour vous, Tom Leb.
Que les bons esprits vous entendent.
C'est encore une le Maroquinerie, c'est une petite salle qui vous a déjà porté bonheur, non?
Je n'y ai jamais joué, non? Non,
non, jamais. Non. Il me semblait que j'avais vu ça quelque part.
Y aurait-il une erreur dans vos fiches?
Non, c'est une erreur sur Wikipédia. Mm-hmm. Mais pourquoi la Maroquinerie? Pourquoi une salle comme ça, tranquille, un soir à Paris plutôt que faire plusieurs soirs? C'est parce que...
Alors, j'ai une tournée de prévue au mois de novembre, avec 5 dates. Metz, Lyon, ou peut-être 4. Metz, Lyon, Bordeaux et Marseille. Et ensuite, je viens à Paris au mois de décembre pour, en fait, célébrer la sortie de cet album. C'est ce qu'on appelle un peu une release party dans le monde de la musique.
Oui.
Qui fait que le public peut venir assister à la première représentation à Paris de l'album en entier, en fait.
Voilà, album qui s'appelle Recollection, et on écoute encore un extrait, Friends.
Non.
C'est pas Friends, ça. Il s'est trompé, c'est pas grave.
Alors,
on a Friends ou non? Non, on l'a pas, il s'est trompé. Alors, qu'est-ce que c'est ce morceau?
C'est magnifique,
oui.
Ce qui vient de se passer est un moment exceptionnel de la radio française.
C'est-à-dire?
Friends est un titre de mon album.
Et c'est la générique de Friends.
Voilà, donc trompé. Je pense que le jeune homme de la régie a confondu le titre de mon album avec le générique de la série Friends.
Alors pourquoi cet album Friends? Pourquoi cette chanson Friends? Ça n'a rien à voir.
Strictement rien à voir, mais je peux comprendre le pléonasme.
Voilà. En tout cas, celles et ceux qui veulent écouter cette chanson, c'est très simple. Il suffit de se procurer l'album Recollection.
L'amalgame.
Voilà. Il suffit aussi de se rendre à la Maroquinerie le 17 décembre, et c'est le point de départ d'autre chose, parce que maintenant, l'humour, ça va continuer, parce qu'il y a ça, mais il y a la comédie, et il y a Kevin et Tom. Qu'est-ce qui vous fait rire, Tom? Il est parti dans un fou rire, là.
C'est absolument magnifique ce qui vient de se passer. Ouais. Je vous remercie. Merci à toi, Jean Régisseur.
Nous prendrons des mesures tout à l'heure. Oui, je disais que Kevin et Tom, ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter comme
nous
ça.
Nous avons des dates de tournée actuellement en France, en Belgique et en Suisse. Et les Dom Tom.
Et avec l'écrire de nouveaux sketchs, de nouveaux développements?
Écoutez, là, pour l'instant, nous sommes en tournée. En France, en Suisse, en Belgique et dans la Dom Tom.
Voilà. Bon. Et vous continuerez à tout faire en même temps, c'est-à-dire la comédie, l'humour, la chanson. Vous avez besoin de tout ça pour être heureux, Tom Leb.
Alors absolument, ouais. Si j'ai le droit de ne pas choisir, je ne choisirai pas. Voilà.
C'est pas sûr. Du genre à choisir.
Non. Et puis je pense que c'est les trois métiers que vous venez d'évoquer ne sont pas incompatibles. Donc je continuerai à faire les trois jusqu'à ce qu'on me jette une bouteille.
Le plus tard possible. En tout cas, cet album Recollection, il faut l'écouter. Le 17 décembre, la Maroquinerie, la tournée dont Marseille, j'ai parfaitement compris.
Ouais.
Et puis, vous avez tellement de choses à dire que vous serez toujours le bienvenu dans ces clés d'une vie.
Merci mille fois de votre accueil.
Merci Tom Leb. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye. Et nous, on se retrouve demain, bien sûr, pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.